Alors, on continue notre série dans 1 Pierre. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Pierre. Et ce matin, juste avant de faire la lecture, juste pour se situer, on complète l'introduction d'1 Pierre. J'avais expliqué, la lettre d'1 Pierre commence d'une manière particulière. Pierre veut comme déposer un fondement pour nous. Puis, il le fait en partant dans l'adoration, dans la louange. En théologie, on appelle ça une doxologie. D'accord? C'est un moment où on a des vérités qui sont dites sur la personne de Dieu, puis Pierre commence à adorer, puis il veut déposer ça devant nous. Un des thèmes principaux de la lettre de Pierre, ce sont les souffrances auxquelles sont appelés les chrétiens. On vit sur la terre, tous les êtres humains souffrent sur la terre, tout le monde à différents moments dans notre vie, on va souffrir. S'ajoute à cela certaines souffrances particulières pour les chrétiens qui proclament, qui annoncent l'Évangile. C'est plus ou moins bien reçu, avec plus ou moins de liberté. J'ai quelqu'un qui m'a partagé, pas plus tard qu'hier, le Poutine en Russie vient d'interdire, de fermer à tout le moins temporairement un séminaire de formation pour les pasteurs, un séminaire baptiste à Moscou, puis un séminaire pentecôtiste. Ce sont des séminaires avec lesquels moi j'étais en relation indirectement lorsque je suis allé en Russie là-bas. Oups, ça vient de se fermer. Pourquoi? Poutine a déclaré il y a 2 ans que les Témoins de Jéhovah étaient une organisation terroriste. C'est assez particulier, là. Les Témoins de Jéhovah, c'est une secte chrétienne, mais terroriste, c'est peu probable. C'est des gens qui ne vont pas à la guerre, d'accord? Mais donc, il y a certaines souffrances qui sont particulières. Puis ce que Pierre est en train de faire, c'est qu'il dit, avant de vous expliquer comment les chrétiens, on est appelés à vivre des souffrances, quelle attitude on doit avoir, comment on doit se comporter avec les gens, commençons par faire une chose. Commençons par célébrer notre Dieu. Commençons par la louange, commençons par élever Dieu, commençons par reconnaître la grandeur de ce que Jésus-Christ est venu faire. Et ça fait quelques semaines que je vous le répète, la première leçon pratique à retenir de la première lettre de Pierre, hein, c'est que si ton adoration, si ta louange ne va pas bien, ça va être difficile de traverser les épreuves de la vie avec joie. Ça commence par ta louange et ton adoration. Et ce matin, on termine cette doxologie-là avec l'idée que les chrétiens sont privilégiés, comme jamais auparavant dans l'histoire, comme jamais dans l'Ancien Testament. Nous sommes privilégiés parce qu'il nous a été donné de connaître une grâce qui n'avait jamais été révélée avant que Jésus-Christ ne vienne. Et ce matin, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller apprécier ce privilège, cette grâce qui t'est réservée à toi si tu as connu Jésus-Christ, qui m'a été réservée à moi parce que j'ai connu Jésus-Christ. On va prier ensemble. Père éternel, je viens ce matin pour t'adorer, Seigneur. Je viens pour te célébrer, non seulement parce que tu es Dieu, parce que tu as créé les cieux et la terre. Seigneur, les Juifs de l'Ancien Testament te célébraient déjà pour ça. Je viens ce matin te célébrer, t'adorer, non seulement parce que tu es bon, tu es compatissant, tu es patient, tu te plais à pardonner même nos péchés. Les Juifs de l'Ancien Testament te célébraient déjà pour ça, Seigneur. Je viens t'adorer, te célébrer ce matin, non seulement parce que tu t'es fait connaître à nous à travers ta parole, les Juifs de l'Ancien Testament te célébraient déjà pour ça, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, je viens te célébrer, t'adorer, parce que tu t'es fait connaître à nous, comme jamais avant dans l'histoire de l'humanité, à travers la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et Seigneur, tu m'as fait connaître à moi et à tant de personnes ici ce matin, Seigneur, que Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes, Seigneur. Et ce matin, je veux te demander, Père, de nous accorder cette grâce, de renouveler cette grâce dans nos cœurs, dans nos âmes, d'apprécier ce privilège incroyable, Seigneur, de te connaître et de connaître ton amour manifesté en Jésus-Christ, ses souffrances et sa gloire, comme nous dit Pierre, Seigneur. Afin, Père, qu'on puisse quotidiennement, à tous les jours, venir se reposer, Seigneur, dans ce privilège-là, dans cet évangile, dans cette bonne nouvelle que tu nous as accordée, Seigneur. Et qu'ainsi, Père, on puisse garder les yeux fixés sur toi, alors même qu'on traverse les moments difficiles de la vie, qu'on puisse se reposer dans l'évangile de Jésus-Christ. Et je te prie en terminant, Père, si ce matin il y a des gens parmi nous qui sont ici, qui sont en recherche, qui se posent des questions, qui cherchent même à sonder ta parole, à savoir est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu, est-ce que Jésus est vraiment le Christ, le Sauveur des hommes. Viens, Seigneur, te révéler à eux à travers ta parole, puis par l'action puissante de ton esprit dans leur cœur, Seigneur. Non par une manipulation humaine, mais par une œuvre surnaturelle de ton esprit et de ta parole ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu.
Le passage biblique est dans 1 Pierre 1, versets 1 à 12, dans la nouvelle édition de Genève. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards.
Merci, Esther. Alors, ce matin, je vais commencer par un petit concours. Ce n'est pas dans mon habitude, je vous avertis tout de suite. C'est la première fois que vous venez. On ne fait pas ça d'habitude. On va faire une petite compétition. D'accord? Fait que j'ai besoin que vous me répondiez là, ce matin. D'accord? Sinon, je vais vraiment avoir de l'air cocon. Qui ici pense avoir été en contact personnel avec la personne la plus connue au Québec? Qui est la personne la plus connue au Québec que vous avez rencontrée personnellement? J'ai besoin de réponses, là. Jean Béliveau. Oh, merci. Merci, Jean Bernard. Jean Béliveau. Qui d'autre? Céline Dion. Ouais, là, ça va être dur à battre un petit peu. C'est comme... Il aurait fallu attendre un petit peu juste dans la gradation. Parce que là, on est rendu Canada. Oh, oui!
Célia Potello.
Moi, je sais que j'ai mon beau-frère, j'ai déjà donné l'exemple. Il s'est retrouvé en vacances avec John Travolta à côté de lui. Il commençait à jaser, puis à la fin, il a dit « Do you know who I am? » En toute humilité. « Oui, oui, tu es John Travolta. » Est-ce qu'il y en a d'autres? Qui vous avez déjà rencontré? Oui!
René Lévesque et Jacques Parizeau.
Quand même, hein? Luigi?
Lucien Bouchard.
Lucien Bouchard. C'est quand même impressionnant. Quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un qui a dit « Youpi » N'importe quoi. Oui.
Maurice Richard.
Toi? T'es plus vieux que je pensais. Oui, Alain.
Je dis moi aussi, Maurice.
Ah, toi, Maurice Richard. OK. Oui, Wemba.
Valérie Plante.
Excellent, excellent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont allés à l'international aussi? Oh, Jacob.
Brian Paley.
Brian Paley. Et c'est quoi, c'est un joueur de golf, c'est ça?
Non, c'est le...
Quelqu'un d'autre?
Le prince Harry,
c'est vrai? Tableau, on a des superstars dans l'église qui rencontrent comme ça. C'est quoi, vous mangez avec ces gens-là? Prochaine fois, vous m'invitez au moins? Ben moi, savez-vous quoi? Sérieusement, très sérieusement, moi j'ai rencontré celui qui a créé l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a quitté... Ben oui, il est venu sur la terre! Il est venu sur la terre, il a quitté les cieux, il est venu sur la terre. Il a donné sa vie pour moi sur la croix, puis il s'appelle Jésus-Christ. Et il n'y a personne que je pourrais rencontrer pour qui ce serait un plus grand privilège pour moi que la personne de Jésus-Christ. Et ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'apprécier ce privilège-là absolument extraordinaire. L'apôtre Pierre nous dit que de recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ est un privilège extraordinaire. Et pour cette raison-là, on vit à une époque extraordinaire pour l'adorer et pour l'annoncer. Puis je vous dirais que ça, c'est au cœur de toute la lettre de Pierre. Je répète ça. Recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ est un privilège extraordinaire. On va voir pourquoi ensemble. Mais on vit aussi à une époque extraordinaire pour l'adorer et pour l'annoncer aussi. Le privilège extraordinaire de recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voici ce qu'on lit dans 1 Pierre 1,10, on vient de le lire. « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, » pour ça que je parle de privilège, « qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. » C'est un très grand privilège de connaître la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, évangile, ça veut juste dire ça, bonne nouvelle. Chaque fois que vous rencontrez le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle extraordinaire. Et c'est un privilège extraordinaire de connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de recevoir cette bonne nouvelle-là personnellement pour nous-mêmes. Voyez-vous, les hommes, les êtres humains, depuis toujours, à travers toutes les religions, toutes les philosophies, se cassent la tête pour comprendre qu'est-ce qu'on fait ici sur la terre. Ceux pour qui la réponse est rien. On vit, on meurt, on est des molécules, puis ça finit là. Il y a quelque chose de désespérant dans cette histoire-là. Mais que ce soit à travers la philosophie, à travers les religions, à travers toutes sortes de démarches, on est là, puis on cherche, puis on dit, « Oui, mais pourquoi on est là? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? » Puis à quelque part, ils sont en train de chercher une réponse qui se trouve seulement dans la personne de Jésus-Christ. Mais non seulement tout le monde à travers toutes les religions, mais les prophètes de l'Ancien Testament. Alors déjà, il faut savoir c'était quoi un prophète. Dans l'Ancien Testament, il y avait des individus, des personnes qui étaient choisies par Dieu. Puis Dieu venait leur faire connaître des choses qu'ils n'auraient pas pu connaître sans une intervention surnaturelle de Dieu. Il y a des choses qu'on peut connaître sur Dieu en regardant un coucher de soleil. Le coucher de soleil, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est beau. Puis là, je dis, OK, peut-être qu'il y a un créateur derrière ça. Je prends un enfant dans mes bras, je découvre l'amour. Puis je dis, l'amour, c'est peut-être pas juste le fruit de molécules. Il y a peut-être quelque chose de plus grand derrière ça. Donc, il y a des choses qu'on peut connaître, mais dans l'Ancien Testament, il y avait des individus qui étaient choisis par Dieu, à qui Dieu donnait une révélation surnaturelle. C'était des prophètes. Et puis ces gens-là recevaient quelque chose de la part de Dieu que bien souvent ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Et c'est ça que Pierre est en train de nous dire ici. Ils recevaient une révélation, puis là ils disaient, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là? Des fois, ils pouvaient comprendre une partie parce que souvent, la prophétie devait être adressée aussi à leur époque. Souvent, ils recevaient un message de Dieu pour aller parler au peuple de Dieu, reprendre le peuple de Dieu, l'encourager à persévérer avec Dieu. Mais d'autres fois, il y avait des choses qui étaient pour le futur, pour l'avenir, puis ils essayaient de comprendre qu'est-ce qui était là. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous étaient réservés ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation. Puis je vais vous donner un exemple, d'accord? Juste pour voir concrètement à quel point ça devait être étrange d'être un prophète puis de recevoir des révélations. Je vous lis un tout petit extrait du prophète Ésaïe qui a vécu à peu près en 800 ans avant Jésus-Christ. OK? Donc, 800 ans avant Jésus-Christ, cet homme-là reçoit de Dieu cette révélation, la met par écrit, puis après ça, commence à essayer de comprendre c'est quoi. C'est vraiment un phénomène hyper intéressant d'aller étudier les prophéties dans l'Ancien Testament. Vous dites, la Bible, je ne suis pas sûr que ça vient de Dieu, il y a peut-être de la sagesse. Puis là, les chrétiens disent, non, c'est plus que ça, c'est la parole de Dieu. Il faut que tu étudies les prophéties dans l'Ancien Testament. Fait que 800 ans avant Jésus-Christ, ce texte-là est écrit. Voici ce qu'on lit dans Ésaïe 52, versets 13 à 15. « Voici mon serviteur prospérera. » On parle du futur. « Il montera, il s'élèvera bien haut. » On parle de gloire pour ce serviteur-là. « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Et je vais vous lire tout à l'heure une autre prophétie. Mais Ésaïe reçoit ça, puis là, Ésaïe dit, « Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est qui ce serviteur-là qui va être élevé comme au sommet de la gloire, mais qui en même temps va avoir été défiguré? » Les Juifs lisaient les prophéties, les prophètes eux-mêmes les étudiaient, puis ils essayaient de comprendre, mais qu'est-ce qui s'en vient? On sait qu'il y a un autre Moïse qui s'en vient. Moïse avait été vraiment un personnage central pour les Juifs dans l'Ancien Testament. Et puis Moïse lui-même avait annoncé, il y en a un autre qui s'en vient, qui va être plus grand que moi encore. Puis donc, les Juifs attendaient ce Moïse-là. Puis ils recevaient les prophètes recevaient des révélations. Puis là, ils disaient, mais je comprends pas. Il va être élevé comme ça, mais il va être défiguré, puis il va souffrir. Puis si j'allais vous lire Ésaïe 53, on voit encore plus la souffrance de ce Sauveur-là qui allait venir. Alors, vous comprenez, tu es dans l'Ancien Testament, 800 ans avant la naissance de Jésus de Nazareth, tu reçois ça, puis là, tu dis, je ne comprends pas qu'est-ce qui va se passer. C'est quoi ça? Comment on met ça ensemble? Il va régner, il va être grand, mais il va souffrir. Des passages parlent de souffrance atroce, parlent même qu'il va prendre les péchés de son peuple sur lui-même dans Ésaïe 53. Donc, dans l'Ancien Testament, pendant des siècles, j'ai des hommes et des femmes qui sont des gens qui aiment infiniment Dieu, qui veulent plaire à Dieu, qui veulent marcher avec Dieu, comme vous et moi. Puis, ils ont certaines révélations, mais ils ont beau fouiller ces révélations-là, it doesn't make sense. Ils n'arrivent pas à mettre les pièces du puzzle ensemble pour comprendre de quoi ça parle, cette affaire-là. Puis, Pierre est en train de nous dire, c'est parce que cette grâce-là n'était pas pour eux, elle vous était réservée à vous des siècles plus tard. Quand Ésaïe a reçu cette parole-là, c'était une parole qui était pour ceux qui connaîtraient Jésus-Christ. Puis Pierre va plus loin et dit, non seulement dans l'Ancien Testament, donc non seulement historiquement vous êtes privilégiés, mais on pourrait aller dans tout l'univers puis vous êtes encore privilégiés. Parce qu'il dit que même les anges, regardez au verset 12, vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit-Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. C'est dans la traduction Bible du Semeur. Le grec exprime un désir très, très fort de plonger les regards pour comprendre. C'est un peu comme si tout de suite, là, devant vous, nous apparaissait ici devant nous un nouveau véhicule hyper technologique qui fait juste comme flotter au-dessus de la surface du sol, tu sais, puis tu vois même pas porte d'entrée, puis là, tu es là, puis tu te promènes autour, puis tu te dis, mais c'est quoi cette affaire-là, tu sais, puis tu voudrais comme fouiller dedans, puis l'Évangile pour les anges ressemble à ça. Ils sont là, puis ils sont fascinés, puis ils disent, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, puis qu'ils n'arrivent pas vraiment à saisir. Parce que la grâce qui vient avec l'Évangile, n'est pas réservé pour les anges. C'est quoi la grâce de l'Évangile? C'est le fait que Jésus-Christ vient, meurt sur la croix, prenant mes péchés à ma place, afin que je sois pardonné. Peut-être que vous n'êtes pas très familier avec la Bible, mais dans la Bible, il n'y a pas de grâce pour les anges qui se sont rebellés contre Dieu. La Bible nous dit que les anges ont été créés comme des êtres magnifiques, extraordinaires pour célébrer Dieu, pour adorer Dieu, mais qu'une partie des anges s'est rebellée contre Dieu, a suivi l'archange lui-même, Satan. Mais il n'y a pas de grâce pour eux. Cette grâce-là a été réservée pour les êtres humains. Et les anges sont là, puis ils sont fascinés. Parce qu'ils sont dans la présence de Dieu, ceux qui n'ont pas péché, sont dans la présence de Dieu, voient la gloire du Christ, savent qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, mais jamais, jamais les anges ne pourront adorer Dieu de la perspective de celui qui a été gracié. Quand tu as fait du mal à quelqu'un que tu aimes énormément, puis tu dis, cette relation-là est brisée, on ne pourra pas la restaurer, ça ne pourra pas être reconstruit, cette relation-là. Puis que cette personne-là t'accorde la grâce de te pardonner. Tu sais, tu as eu un conflit avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, puis tu sais que tu as vraiment été con, là, mais con, là. Tu as brisé quelque chose. Tu vas voir cette personne-là, puis tu dis, regarde, oublie ça, c'est fini, ça n'a aucun bon sens. Puis cette personne-là trouve la grâce de te faire grâce à toi. De pardonner, mais te pardonner d'un pardon qui fait que tu dis, je sais vraiment que j'ai été pardonné. Puis tu l'expérimentes. C'est ce qu'un chrétien vit lorsqu'il croit dans l'évangile de Jésus-Christ. Et les anges ne vivront jamais ça. Les anges sont fascinés par la splendeur, la merveille, la beauté de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et jamais ils ne connaîtront cela comme nous. C'est un privilège, nous dit Pierre, c'est une grâce qui nous avait été réservée à nous. De connaître l'Évangile, non seulement comme les prophètes ne pouvaient pas le comprendre, mais de l'expérimenter comme les anges ne pourront jamais l'expérimenter. Au verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Voyez-vous, le gars qui a écrit cette lettre-là, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'est celui qui avait renié Jésus, puis qui a été honteux de ça, puis Jésus lui a dit, « Pierre, je te pardonne. » Paie mes brebis, prends soin de mes enfants. » Puis c'est le même Pierre qui, à la Pentecôte, va recevoir l'Esprit-Saint. Puis lorsqu'il reçoit l'Esprit-Saint, Jésus meurt, ressuscite, monte au ciel, envoie l'Esprit-Saint, reçoit l'Esprit-Saint, il se met à annoncer l'Évangile. Il se met à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit-Saint qui est en lui maintenant. C'est un homme transformé, il prêche l'Évangile et il dit, « Voyez-vous, cette grâce-là n'était pas disponible avant que Christ ne vienne, qu'il meure sur la croix, qu'il ressuscite d'entre les morts, que le Saint-Esprit soit envoyé et qu'il vous soit annoncé. » Parce que cette grâce-là était réservée pour vous. Puis je vais ajouter quelque chose de plus, parce qu'au tout début de la lettre, Pierre dit à ceux qui sont élus, à ceux qui ont été choisis par Dieu. Parce que là, vous pourriez me dire, « Ouais, mais Yannick, Pierre a écrit cette lettre-là, ça fait longtemps, c'est peut-être pour ceux de l'époque. » Non, c'est plus que ça. C'est plus que ceux de l'époque. Aujourd'hui, vous annoncez l'Évangile à des gens, vous leur partagez ce que Jésus a fait. Souvent. Je jasais avec des gens, puis ils ne sont pas intéressés à l'Évangile. Puis même, ils voient la beauté du message d'un Dieu qui aurait envoyé son Fils, d'un Fils qui se serait donné pour le pardon de nos péchés, pas intéressés à l'Évangile. Puis là, vous êtes là, puis vous dites, « Ouais, mais il me semble que c'est quelqu'un de sensé, il me semble qu'il aurait tellement besoin de ça, ça lui ferait pas intéressé à l'Évangile. » Pas intéressé à l'Évangile. Parce que c'est non seulement une grâce d'entendre l'Évangile, mais c'est une grâce de recevoir l'Évangile. Pendant des années, on m'annonçait l'Évangile, puis je ne voulais absolument rien savoir. Pendant des années, ma mère, avec patience, m'annonçait, je ne voulais rien savoir de l'Évangile. Le jour où, comme Jean-Pierre nous a partagé, J'ai été brisé, puis j'ai arrêté de me battre avec Dieu. J'ai goûté une grâce que les anges des cieux ne savoureront jamais. J'ai reçu l'Évangile. J'ai accepté le sacrifice de Jésus-Christ pour mes péchés à moi. Une grâce qui avait été réservée non seulement pour cette époque depuis la venue de Jésus-Christ jusqu'à son retour, mais parmi tous les hommes, à travers tous les anges, pour ceux que Dieu appelle à recevoir l'Évangile. C'est une grâce extraordinaire, les amis. C'est une grâce extraordinaire. C'est un privilège incomparable. Puis, quand on vous dit à l'Église de l'Espoir qu'on veut être centré sur l'Évangile de Jésus-Christ, c'est pas pour être à la mode, parce que les églises veulent être centrées sur l'Évangile. C'est pas un discours creux, c'est pas quelque chose de vide. C'est parce que Pierre se prépare à nous parler de la souffrance des chrétiens, puis il dit « Voici ce qui doit faire l'objet de votre joie. » Alors même que vous souffrez, si vous voyez que votre foi en Dieu, votre foi en Jésus-Christ est fortifiée, trouvez de la joie dans ça. Réjouissez-vous dans l'Évangile. Réjouissez-vous de voir que vous avez vraiment reçu cette grâce-là. C'est là, c'est en vous. Les épreuves ont beau se multiplier, vous êtes fortifiés dans votre foi. C'est solide en vous. Vous espérez dans le retour de Christ. Vous espérez être réunis avec lui pour l'éternité. Vous avez cette confiance que bientôt, très bientôt, cette vie va passer, mais vous allez être réunis avec Christ. Et cela doit faire l'objet de notre joie quotidienne. C'est pour ça que je vous dis souvent, je me réveille le matin. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai pris le temps avant de me lever, j'ai pris le temps de repasser l'Évangile dans mon cœur. Puis dire, Seigneur, aujourd'hui, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais être, Seigneur, ça dépassera jamais ce que toi, tu as fait pour moi, Seigneur. Et tout ce que je vais faire, tout ce que je vais être aujourd'hui, je veux le faire par reconnaissance pour ton sacrifice sur la croix. Ce matin, je me suis réveillé, puis je me sentais indigne. Il y a des matins comme ça, je me suis réveillé, puis mon premier réflexe, je suis indigne d'aller prêcher, je suis indigne d'être ici, je suis indigne. Venez pas me dire tantôt que je suis digne, ce serait un mensonge. Je suis indigne. Je suis un pécheur. Mais c'est ça qui me venait en tête. Comment j'ai fait pour trouver la joie puis la paix? J'ai repassé l'Évangile dans mon cœur, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour rassurer mon cœur et dire, « Seigneur, par moi-même, je ne peux rien faire, mais par ta grâce, je puis tout, Seigneur, parce que c'est toi qui es là en moi. » Je suis allé me reposer dans l'Évangile. Quotidiennement, je veux aller me réjouir dans l'Évangile, parce que c'est un privilège extraordinaire. Les prophètes de l'Ancien Testament essayaient de comprendre, ils ne comprenaient pas ces choses-là. Pierre est en train de faire quelque chose aussi de vraiment génial. Pierre est en train de nous attacher, les chrétiens, l'Église, avec le peuple de l'Ancien Testament. Il est en train de nous dire, on est en continuité. Il y a un type que j'aime bien suivre, il s'appelle Ben Shapiro. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient Ben Shapiro. Super intelligent, toutes sortes d'idées, vraiment intéressantes. J'aime l'entendre discuter. Il a fait une entrevue il y a quelques mois, je pense, avec John MacArthur, un pasteur qui prêche la parole de Dieu. Il a fait une entrevue avec. Puis Ben Shapiro, c'est un juif. C'est un juif pratiquant. Un gars super brillant, défend des choses qui sont similaires entre le christianisme et le judaïsme, évidemment. Mais clairement, dans son esprit à lui, le christianisme, c'est une secte juive qui a déraillé. Parce que les Juifs attendent le Messie. Mais la majorité des Juifs n'ont pas reconnu en Jésus le Messie qu'ils attendaient. Et donc, les chrétiens, c'est quoi? C'est une autre des sectes juives qui pensent avoir trouvé le Messie. Ça existe depuis toujours. Depuis toujours, il y a chez les Juifs des gens qui disent « Ah, c'est moi le Messie, ah, j'ai trouvé le Messie. » C'est des sectes parmi les Juifs qui pensent avoir trouvé le Messie. Pour la majorité des Juifs, le christianisme, c'est une secte juive qui est partie sur un bad trip avec un Jésus qui aurait été le Messie. Et donc, pour cet homme-là que j'admire, pour son intelligence, j'aime ça l'écouter, il est super brillant, mais il m'arrive de m'arrêter puis de prier pour lui. Parce que pour lui, le christianisme, c'est une secte juive. Vous comprenez? Parce qu'il ne reconnaît pas en Jésus-Christ son Messie, à lui qui est juif. Et ce que Pierre est en train de faire ici, Pierre est en train de nous montrer. Non, au contraire. Regardez bien ce qu'il dit au verset 11. Il voulait, en parlant des prophètes, sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Voyez-vous, dans la Sainte Trinité, il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est parfois appelé l'Esprit-Saint, parfois il est appelé l'Esprit de Dieu, parfois il est appelé l'Esprit de Christ. Dans cette même lettre-là, il va être appelé l'Esprit-Saint, il va être appelé l'Esprit de Christ, d'accord? Dans les versets même qu'on regarde ce matin. C'est vraiment fascinant. Pierre est en train de dire que 800 ans avant la venue de Jésus, OK, là, on va faire un petit peu de... Vous me suivez, restez avec moi, concentrez-vous. Jésus n'est pas né, Jésus de Nazareth, c'est l'homme, mais le Fils, lui, est éternel. Alors, le Fils, par l'Esprit-Saint, l'Esprit de Christ, qui était dans les prophètes, était en train d'annoncer sa mission qui s'en venait. C'est vraiment fascinant, là. Le Fils s'est pas incarné encore, parce que dans la personne de Jésus-Christ, j'ai Dieu et l'homme parfaitement unis. Dieu se fait homme. C'est ça, la personne de Christ. Il n'est pas devenu homme encore. Il est là dans l'Ancien Testament. Il est dans les prophètes, puis il est en train de les inspirer, de leur révéler ce que le Christ va souffrir. Est-ce qu'il savait ce qu'il s'en venait faire sur la terre? Il savait ce qu'il s'en venait faire sur la terre. Lorsqu'il allait prendre cette forme humaine, il savait pertinemment ce qu'il s'en venait faire sur la terre. Et Pierre est en train de nous dire, ce que vous croyez, là, c'est pas une secte juive, les amis. Les prophètes annonçaient ça. L'Esprit de Christ était lui-même dans les prophètes et annonçait cela. Constamment, il est en train de révéler cela. Et donc, un des arguments que Pierre va développer dans sa lettre, c'est que nous sommes le peuple de Dieu. Puis constamment, il va aller puiser dans l'Ancien Testament pour nous montrer qu'on est en ligne directe. Nous sommes les descendants spirituels d'Abraham. Les promesses faites à Abraham, faites à Moïse, faites à David, faites aux prophètes viennent se réaliser dans l'Église de Christ. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Le christianisme n'est pas une secte juive. Et si tu es là, puis tu es en train de cheminer, puis tu es en train d'étudier toutes ces questions-là, étudie les prophéties dans l'Ancien Testament. Pour voir, on sait à quelle époque ça a été écrit, parce qu'on a des manuscrits. On a des manuscrits anciens. Donc, on sait que ça date beaucoup plus loin que le Nouveau Testament. On peut voir ces prophéties-là écrites à une époque où c'est tellement troublant que si je ne cite pas le passage puis je m'assois avec un juif, je l'ai déjà fait, je lui cite Ésaïe 53, les probabilités sont, si je lui demande, OK, ça vient d'où ça? Il va me dire, ah, ça vient du Nouveau Testament. Parce qu'il entend Ésaïe 53 puis il dit, ça parle de Jésus sur la croix. Donc, ça vient de votre livre à vous, le Nouveau Testament. Non, 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 tu ne connais pas bien ton Ancien Testament. Ça vient de ton prophète à toi, mon ami, le prophète Ésaïe, qui annonçait la venue du Messie. Comment il l'annonçait? Parce que l'Esprit du Messie était déjà en eux, puis il était en train d'annoncer sa venue. Christ est venu souffrir sur la terre, consciemment, volontairement. Puis les prophètes étaient là, puis ils essayaient de mettre tout ça ensemble. Fait que si tu es là, puis... tu es en cheminement, puis tu dis, ouais, OK, peut-être qu'il y a des bons principes. Non, il y a plus que des bons principes. Ouais, OK, peut-être que ce livre-là, tu sais, comme d'autres livres, est inspiré. Non, plus que ça. Oh, OK, peut-être que je pourrais le lire. Va étudier les prophéties dans l'Ancien Testament qui annoncent la venue du Messie. On va célébrer Pâques dans quelques semaines. La Pâques, pour nous, c'est la célébration de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça que les chrétiens célèbrent depuis 2000 ans, la fin de semaine de Pâques. Prépare-toi pour la Pâque en allant lire le psaume 22, Ésaïe 52, Ésaïe 53. Va lire les prophéties dans l'Ancien Testament. Demande que quelqu'un s'assoie avec toi juste pour te pointer dans cette direction-là. Maintenant, le plus grand mystère, nous dit Pierre, pour eux, c'était de mettre tout ça ensemble. Il va souffrir, il va être élevé, il va être glorifié. C'est qui, à quel moment, comment ça va se produire, tout ça. Ils essayaient de comprendre les souffrances et la gloire de Christ, la croix et la résurrection. Puis ils essayaient de mettre tout ça ensemble. Parce que c'est ça, l'Évangile. L'Évangile, c'est la souffrance du Messie, sa résurrection le troisième jour. Ensuite, il monte auprès de son Père et il est glorifié. La souffrance et la gloire. Et ils essayaient de comprendre cela. Et le privilège qui nous a été accordé à nous, c'est non seulement de comprendre que c'était Jésus de Nazareth qui devait vivre ça, mais c'est que par son sacrifice sur la croix, le pardon des péchés nous est offert. Son sacrifice, afin que je sois pardonné, que je puisse entrer dans une alliance nouvelle avec Dieu, dans une communion nouvelle avec Dieu, non pas en vertu de mes bonnes œuvres à moi, pas parce que je suis quelqu'un de bien. Devant Dieu, t'as beau être la meilleure personne sur la terre, t'as beau être, c'est qui on a dit, Céline Dion, le prince Harry, je sais pas qui, une vedette. Devant Dieu, tu sais, on est tous des pécheurs. Il n'y a personne de bien devant Dieu. Parce que Dieu est saint, puis son standard, c'est la perfection sans péché, sans offense, sans la bêtise humaine. Mais la grâce que Christ nous a faite, c'est qu'il est venu mourir sur la croix, puis Dieu a honoré son sacrifice, l'a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Et les chrétiens célèbrent ça depuis 2000 ans. C'est difficile à croire. Une belle piste que je te donne ce matin, c'est « va étudier les prophéties 800 ans avant la venue de Jésus, puis explique-moi ce texte-là pour le fun. Va sonder ces choses-là. Puis peut-être que tu vas découvrir la merveille de l'Évangile. » Puis Pierre est en train de faire quelque chose d'autre. C'est vraiment une lettre qui est tellement bien écrite. Pierre nous a déjà parlé des souffrances de Christ et de sa gloire dans les versets qui précèdent, puis il avait placé ça dans le contexte pour les chrétiens. De même que Christ, les prophètes avaient annoncé que Christ était appelé à souffrir puis à être glorifié, de même nous, chrétiens, on est appelé à souffrir puis être glorifié lorsqu'on va entrer dans la présence de Dieu. Voyez-vous, Pierre est en train de préparer un autre thème qu'il va développer. On va sauter dans ce thème-là dans les prochains versets, dans les prochaines semaines. Pierre est en train de déposer ce fondement-là. Et il est en train de nous dire, vous avez besoin de continuer à être émerveillé quotidiennement par l'Évangile de Jésus-Christ. Vous avez besoin, vous, chrétiens, de comprendre vraiment le sens des souffrances de Christ et de sa gloire pour que vos souffrances à vous sur la terre, en attendant la gloire, deviennent plus que tolérables. Qu'en bout de ligne, ça devienne une source de joie, parce que ma foi en Jésus-Christ est fortifiée à travers ça. Et ce que Pierre va développer à travers le reste de sa lettre, c'est voici comment vous êtes appelés à souffrir comme chrétiens, et voici comment vous êtes appelés à briller et à annoncer les vertus de Dieu, à annoncer l'Évangile aux hommes. De la même manière que Christ est venu puis a annoncé la bonne nouvelle aux hommes, sachant qu'il allait être crucifié, il a annoncé la bonne nouvelle. De la même manière, nous, comme chrétiens, on est appelés à accepter de souffrir puis à annoncer les vertus de Dieu. Regardez ce qu'il dit au chapitre 2, verset 9. On va le voir dans quelques semaines, mais je veux juste vous le citer déjà. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Tout à l'heure, je parlais de ça. « Un sacerdoce royal. On y viendra une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Pierre va développer le thème suivant. Il va dire, « Les chrétiens, vous allez souffrir. Tous les hommes souffrent, mais vous, vous allez souffrir d'une manière particulière à cause de l'Évangile. » Et c'est une grâce et un privilège de pouvoir le faire pour Christ. Mais non seulement cela, la manière que vous allez accepter de traverser ces souffrances-là, vous allez pouvoir être un témoignage et vous allez pouvoir annoncer la bonne nouvelle à votre tour. Puis en annonçant l'Évangile, comme les apôtres avaient annoncé l'Évangile, d'autres personnes vont goûter ce privilège-là. Vont goûter ce privilège-là que les prophètes n'ont pas eu et que les anges n'auront jamais. De connaître l'Évangile de Jésus-Christ et de le recevoir dans leur cœur. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est un privilège extraordinaire. Puis des fois, on se comporte comme quelqu'un qui est marié depuis longtemps. C'est comme la femme de ta jeunesse n'est plus aussi charmante et plus aussi merveilleuse à tes yeux. Ça a perdu de sa flamme, la familiarité, hein? La familiarité, ça tue l'émerveillement. On devient tellement familier qu'on perd cette espèce de « wow ». C'est drôle de ce temps-ci. Des fois, je regarde Esther puis je dis « comment elle fait pour m'aimer? » Je la regarde puis elle me fait un sourire puis je dis « je peux vraiment croire qu'elle m'aime? » C'est bon pour moi de faire ça parce que ça casse la familiarité, ça ramène l'émerveillement. On a besoin, comme chrétiens, alors qu'on se prépare à célébrer Pâques, de retrouver cet émerveillement-là devant l'Évangile de Jésus-Christ. Et si tu n'es pas chrétien, voici le message pour toi ce matin. Ce salut-là est accessible. Ce privilège-là est disponible maintenant. On ne vit plus à l'époque des prophètes où toutes les choses étaient obscures. On a un nom, il s'appelle Jésus de Nazareth. Tu peux sonder les Écritures pour le mettre à l'épreuve. Tu peux lui demander de se faire connaître à toi. Et ma prière, c'est que tu reçoives ce privilège-là que moi j'ai reçu. Recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ personnellement dans ta vie. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux t'adorer ce matin. Je veux t'élever dans mon cœur. On veut te célébrer. On va prendre le repas du Seigneur dans quelques minutes. On va célébrer ensemble ce dernier repas que tu as pris avec tes disciples qui annonçait ta mort à la croix, Seigneur. Seigneur, tu m'as accordé ce privilège à moi. Tu l'as accordé à tant de personnes ici ce matin d'entendre, mais non seulement d'entendre, de recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Seigneur, je confesse que souvent je tombe dans la familiarité avec toi. Je prends pour acquis cette grâce que tu m'as accordée. Je perds l'émerveillement devant le fait que tu m'aies aimé ainsi, Seigneur. Seigneur, donne-nous, accorde-nous cette grâce de retrouver ce premier amour, d'être émerveillé, fasciné, Seigneur, par la beauté de ton amour. Accorde-nous ce privilège alors qu'on se prépare à célébrer la Pâque bientôt, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.